Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1. Nous sommes Hélène et Ilona, élèves de première spécialité Humanité, Littérature et Philosophie. Nous avons choisi de parler de la liberté d'expression du siècle des Lumières à aujourd'hui grâce au regard de Voltaire.
Pour cela, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alain Sagère, spécialiste et membre de la Société Voltaire, à qui nous allons poser quelques questions. Bonjour Monsieur Alain Sagère.
Bonjour, bonjour à vous.
Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi vous êtes-vous intéressé à Voltaire ?
Mais écoutez, c'est une question finalement de transmission familiale. Je ne sais pas si ça se passe encore beaucoup comme ça dans les familles, mais j'ai un oncle qui avait un vieux classique Larousse, datant de 1937. C'était un livre scolaire, hein, et il avait annoté des passages. Et quand j'ai eu 10-12 ans, eh bien, il m'a transmis ce petit ouvrage que j'ai toujours. Et donc, il y a des phrases soulignées, des phrases de Voltaire, comme par exemple un vers des discours sur l'homme. « Ah, sans la liberté, que seraient donc nos âmes ?» Ou bien « La liberté dans l'homme et la santé de l'âme. » Mais aussi « C'est n'être bon à rien, de n'être bon qu'à soi. » Vous voyez donc, finalement, des leçons de sagesse. Et puis, à la fin de cet ouvrage, il y a une série de jugements sur Voltaire philosophe par ceux qui lui ont succédé. Et moi, justement, je me suis beaucoup intéressé par la suite à Voltaire philosophe parce que je pense qu'on connaît l'homme des Lumières, le combattant pour la justice, mais quelquefois Voltaire est un peu méconnu comme philosophe. Et donc, je me suis attaché à le mettre en évidence. Et enfin, pour finir, je crois que c'est une figure en même temps qui a su se mettre en danger, prendre des risques pour défendre ses principes, pour défendre la justice, un peu comme Zola dans l'affaire Dreyfus. Et ça, c'est effectivement infiniment précieux.
Alors, vous avez beaucoup parlé de liberté par rapport à Voltaire. Donc, nous allons parler, nous, de la liberté d'expression. Quelle extension pouvons-nous lui donner et peut-elle être absolue ?
Je crois que pour répondre à cette question, on peut prendre un extrait des idées républicaines de Voltaire qui sont parues en 1765, et voilà ce qu'il dit. « Dans une république digne de ce nom, la liberté de publier ses pensées est le droit naturel du citoyen. » Donc là, on a une claire définition de ce que c'est la liberté d'expression. Il poursuit, « Il peut se servir de sa plume comme de sa voix. Il ne doit pas être plus défendu d'écrire que de parler. » Et il conclut, les délits faits avec la plume doivent être punis comme les délits faits avec la parole. Donc là, on a bien la position d'une limite. Je crois que pour Voltaire, la limite, elle est fixée par ce qu'il appelle l'infâme. Vous savez, la fameuse expression « écraser l'infâme ». Alors, j'ai répertorié à travers les œuvres de Voltaire la signification que pouvait prendre cette « infâme ». Et donc, cette infâme, ça concerne l'homicide, l'intolérance, le fanatisme, la calomnie, la délation, l'imposture, l'injustice, la méchanceté, la cruauté, mais aussi tous les défauts qui vont défigurer la nature humaine, comme la bassesse, la fausseté, la traîtrise, bref, tout ce qu'on peut appeler le continent noir de la nature humaine. Bien, je pense que pour Voltaire, la limite, elle est là. C'est-à-dire à partir du moment où, par exemple, on appelle au meurtre ou où on va risquer de provoquer une guerre civile en, disons, en désignant tel ou tel groupe et en appelant à l'exclure, je pense qu'à partir de là, pour Voltaire, effectivement, ce genre de publication ne doit pas être toléré. Dans son esprit, il n'y aura pas de censure préalable, mais néanmoins, on pourra être poursuivi pour ce genre de délit, voire de crime.
Est-ce que la liberté d'expression est plus étendue que, justement, à ce siècle des Lumières ?
Disons, aujourd'hui, ça dépend de quel pays on parle. Car aujourd'hui, comme vous le savez, dans nombre de pays, la liberté d'expression est réduite à rien, ou à pas grand-chose. Et vous avez de plus en plus, hélas, de par le monde, des journalistes et qui sont poursuivis, emprisonnés, voire même tués. Donc, c'est vrai que ce problème de la liberté d'expression, il reste très important. Maintenant, évidemment, dans notre pays, ça n'a plus rien à voir. Au XVIIIe siècle, il y a des manuscrits qui s'y sont refusés, des livres brûlés, des auteurs et des éditeurs qui sont poursuivis et condamnés, voire même exilé, comme Voltaire lui-même à un moment, après la publication des lettres philosophiques. Mais aussi des libraires, des colporteurs, il y a même des espions dans les lieux publics pour vérifier que les gens ne parlent pas mal. Et donc là, effectivement, c'est terrible. Et il y a en plus un organisme qui s'appelle la direction de la librairie, c'est un organisme de censure, et il y a des censeurs qui sont spécialisés dans toutes les disciplines, la théologie, la philosophie, les belles lettres, les sciences naturelles, les beaux-arts, etc. Sauf le théâtre qui dépend directement du lieutenant de police. Bon, enfin bref, en 1789, il y a dans cet organisme, il y a 178 censeurs. C'est un nombre considérable. Et en plus, je dirais, la Sorbonne, l'Université de Paris, peut exercer sa propre censure théologique. Et enfin, il y a une répression qui s'exerce au niveau des parlements, qui sont en France, à cette époque-là, les cours de justice. Donc vous voyez, là, le tableau est particulièrement noir. Et évidemment, par rapport à aujourd'hui, c'est, quand on voit, par exemple, ce qui se passe sur Internet, etc., là, évidemment, c'est tout l'opposé.
Donc, est-ce que Voltaire a joué un rôle important pour la liberté d'expression ?
Alors, lui, oui, il n'est pas le seul. Hein. Je crois qu'il faut rappeler à cette occasion, je dirais, l'apport de l'Angleterre. Et justement, Voltaire rend très souvent hommage et fait référence à l'Angleterre en matière de liberté d'imprimer, de parler et de communiquer. Puisque en Angleterre, ça date du Licensing Act de 1695. Et justement, à partir de cet acte, on peut librement en Angleterre donner son avis. Mais je crois qu'il n'a cessé à travers ses ouvrages et sa correspondance, justement, de défendre ce droit naturel de s'exprimer. Par exemple, je peux prendre un exemple d'un article qui s'appelle « De la liberté d'imprimer » qui est paru dans son dictionnaire philosophique portatif et où il dit « En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortunes ». C'est ce que je disais tout à l'heure, on doit rendre compte de ce qu'on dit. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé, je n'en connais point qui aient fait de mal réel. Bon, alors, vous voyez, donc, de la liberté d'imprimer à entendre, vous voyez, au sens vraiment, non seulement de la presse, des journaux, mais des livres, des brochures, etc. Donc, je crois que oui, on peut dire ça. On est vraiment libre quand il est permis de penser par la parole et l'écrit. Et ça, c'est une dimension qu'on retrouve effectivement constamment chez Voltaire.
De nos jours, la plupart des adolescents sont sur les réseaux sociaux, qui sont à la fois un outil de libre expression, mais aussi souvent de violence et de haine. Que penserait Voltaire de ces plateformes de liberté numérique ?
Je pense que, d'un certain point de vue, il a consacré beaucoup de temps à sa correspondance. On compte des milliers et des milliers de lettres à des centaines de correspondants. Je pense que s'il avait pu écrire en moins de 280 caractères, craser l'infâme et propager ainsi sa pensée et sa révolte contre les injustices, je pense que ça, il y aurait été sensible. Maintenant, c'est vrai, je lisais récemment une interview d'Angèle, la chanteuse pop que vous connaissez sûrement mieux que moi.
Oui.
Et elle disait, ma mère n'a pas la moindre idée de ce qu'on ressent à mon âge quand des hordes de gens défoulent leur colère sur vous. Je crois que Voltaire aurait, lui, ressenti ce qu'Angèle ressent. Parce que, de son vivant, il a dû subir une multitude de libelles, de pamphlets, d'écrits plus ou moins dégoûtants qui s'en prenaient à sa personne, à sa vie, à ses mœurs, à son physique même, et à ses œuvres. Donc le harcèlement, ça date pas d'hier. Par contre, je crois qu'il aurait été horrifié du fait qu'on puisse effectivement, sans limite, sans contrôle et sans régulation, laisser déferler la haine, ce que j'ai appelé tout à l'heure avec lui l'infâme, et que ça soit propagé en toute impunité. Ça, je crois qu'il aurait été sidéré. Je pense... Parce qu'il y a des réseaux sociaux au XVIIIe siècle, en particulier les salons littéraires et quelquefois politiques tenus par les grandes dames, et là, il y a des règles. Il y a des règles de bienséance, il y a des règles de comportement. Il n'est pas question de se laisser aller comme ça à l'injure, à la diffamation, à la calomnie et au harcèlement. Ce serait absolument inimaginable, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, clandestinement ou non, ou dans les marges, mais c'est dans les marges, eh bien, effectivement, il y a des écrits et des propos scandaleux qui peuvent être, évidemment, propagés. Et pour dire enfin la dernière chose, ce qui l'aurait énormément étonné, c'est que vous avez parlé des adolescents, c'est que des adolescents, effectivement, des jeunes ou des enfants, puissent se trouver à égalité avec des adultes, quelquefois particulièrement peu recommandables, et puissent se rencontrer avec eux sur ces réseaux. Ça, je pense que, si je me permets cette familiarité, il en serait resté sur le derrière. Et ça, je crois qu'il n'aurait absolument pas compris comment, dans ce que nous appelons un système démocratique, lui qui vivait en monarchie, comment c'est possible.
Merci beaucoup. Du coup, nous nous retrouvons d'ici quelques minutes après une petite pause musicale.
Entendu, merci à vous et à tout de suite.
One more day we'll spend together. Lay your eyes a cup upon me for the better. Oh, I know I'm worse for weather, but my love I won't give up. Spend my days cursing my soul, wishing I could paint my scars and make me whole. Oh, I know I could be better, but my love I won't. I ain't no Superman, I ain't no Holy Ghost. I'm just the one that keeps you up at night, you love the most. I'll be a strong man, I'll be a West Coast. I'll be the sun, I'll be the waves, I'll be the one you love the most. Tears of you have cried will go away. Oh, just grant me one more day. Oh, my love, please don't give up. I see the devil at my door. I see the future of the ones that I've ignored. I guess I was born to be at war. And my love, I won't. My love, please don't give up. I ain't no Superman, I ain't no Holy Ghost. I'm just the one that keeps you up and now you love the most. I'll be a strong man, I'll be a West Coast. I'll be the sun, I'll be the waves, I'll be the one you love the most.
Vous venez d'écouter West Coast du groupe Imagine Dragon. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de la liberté d'expression du siècle des Lumières à aujourd'hui, en compagnie du spécialiste de Voltaire, Alain Sagère. Donc, dans quelle mesure le savoir est-il une condition nécessaire pour la liberté ?
Ah ben là, vous posez une question très intéressante. Les autres aussi sont intéressantes. Mais celle-là, ça va me permettre de mettre l'accent sur quelque chose qui n'est pas souvent signifié. C'est qu'évidemment, la liberté d'expression, ça veut dire l'absence de contraintes extérieures. C'est-à-dire, je dois pouvoir parler, écrire, propager mes idées, évidemment, sans être gêné par un individu ou empêché par un individu, un groupe ou un État. Mais parlons de la liberté intérieure. Il y a peut-être aussi une liberté intérieure, c'est-à-dire, si je suis prisonnier de mon ignorance, d'erreur ou de passion mauvaise, et que je suis justement la proie de ces tendances néfastes, est-ce que je peux considérer que je suis libre de m'exprimer à partir du moment où je ne sais pas ce que je dis, où je dis n'importe quoi, et je répète peut-être comme un perroquet quelque chose que j'ai entendu ou que j'ai été pioché quelque part, sans vérification des sources et sans savoir la pertinence et la validité de ce que je dis. Donc je pense que oui, ça c'est très important, de dire qu'il faut une connaissance la mieux établie possible pour prendre la responsabilité de ce qu'on dit et la responsabilité de ne pas dire n'importe quoi. Donc ça, effectivement, je crois que c'est cette nécessité du savoir. Votre question pourrait presque être un sujet de dissertation, mais votre question sur le savoir est essentielle, oui.
Quel rapport à la liberté d'expression implique, sachant que la vérité absolue est inconnue ?
Alors, ça dépend peut-être du domaine auquel on applique le mot vérité. Parce que quand Voltaire prend la défense du protestant Calas, qui a été condamné et exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis, il a été victime d'une erreur judiciaire. Et donc, il a bien fallu que Voltaire rétablisse la vérité. Et la vérité était bien quelque part. Donc, on peut, en matière de justice, établir la vérité. Je ne parle même pas des vérités mathématiques qui peuvent nous donner beaucoup de mal, mais qui, elles, normalement, sont indubitables. Maintenant, je reconnais qu'il y a des domaines où, effectivement, comme vous dites, il n'y a pas de vérité absolue. Et Voltaire est un probabiliste, c'est-à-dire qu'il pense que dans certains domaines, comme par exemple la religion ou la théologie, il est impossible de se prononcer de façon radicale, par exemple, sur l'existence de Dieu. Et donc, son probabilisme consiste à dire, il n'y a peut-être pas de vérité, mais il y en a quand même qui sont plus convaincantes et plus valables que d'autres. Alors, pour résumer, et pour aller droit au but, je pense que, de ce point de vue-là, nous avons une exigence de véracité quand nous nous exprimons publiquement. Nous avons une exigence de véracité, ce qui veut dire que, en aucun cas, nous devons chercher à tromper autrui ou à mentir. Nous lui devons la vérité, et donc, nous devons dire des choses que nous pensons vraies, et si nous avons des doutes, eh bien, il faut faire état de ces doutes, et si nous ne savons pas où est la vérité, il faut le dire aussi. Donc là, c'est une question morale qui consiste à être vérace.
Alors, vous venez de parler de l'affaire Calas. Nous, on avait un autre exemple, donc l'affaire du Chevalier de la Barre. Donc, dans quelle mesure l'affaire du Chevalier de la Barre a été centrale dans la lutte pour la liberté d'expression ?
On peut dire que finalement, ce Chevalier de la Barre, il a été exécuté et condamné pour blasphème. La Révolution française annulera comme crime imaginaire la notion de blasphème, donc ça libère effectivement de ce point de vue-là la parole, puisque les individus peuvent effectivement, maudire la divinité s'ils en ont envie. Je pense que ça libère même la parole du croyant, puisque imaginons un père croyant ou une mère croyante qui perd son enfant, un nouveau-né, on peut comprendre qu'il ou elle blasphème par désespoir. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une libération de la parole à ce niveau-là.
Nous avons aussi une question sur la censure. Donc, quel procédé stylistique et littéraire utilisait Voltaire pour justement déjouer cette censure ?
Oui, il y a trois procédés essentiels. D'abord, l'ironie, c'est-à-dire il va faire semblant de soutenir une idée ou une thèse qu'en réalité il rejette ou il critique. Par exemple, le début de l'article âme des questions sur l'encyclopédie, Il dit « Tous les articles qui tiennent à la métaphysique doivent commencer par une soumission sincère au dogme indubitable de l'Église. La révélation vaut mieux sans doute que toute la philosophie. » Évidemment, tout ce qui vient d'être dit est complètement anti-voltairien. Il pense exactement l'inverse. Mais il peut espérer que le censeur s'en tiendra à ce premier paragraphe, qu'il ira par paresse, il n'ira pas plus loin, et que l'article âme pourra passer, parce que dans l'article âme, il y a beaucoup de choses qui, justement, contredisent la révélation et la métaphysique chrétienne. Le deuxième procédé consiste dans le déplacement anachronique ou exotique. Il va faire passer une critique ou des critiques en contrebande. Par exemple, si on prend le conte qui s'intitule Zadig, ça va se passer en apparence à Babylone, au Proche-Orient, donc d'aujourd'hui, dans un temps très éloigné. Mais en réalité, la cour de Babylone, ça dissimule la cour de Louis XIV à Versailles. Et puis, il va pouvoir créer un personnage atroce, appelé Yébar, qui est le plus sot et le plus fanatique des individus. Mais ce Yébar, il dissimule l'évêque Boyer, qui est de son temps, vous voyez, Boyer, Yébar. Et cet évêque, il avait à la fois condamné les œuvres de Voltaire et s'était opposé à son élection à l'Académie française. Donc, vous voyez, comme ça, en contrebande, on peut désigner un adversaire. Et enfin, on peut aussi commencer, c'est ce qu'il fait, par adopter en apparence un préjugé ou un cliché, mais qu'il va en réalité rejeter à la fin. Et ça, quelquefois, on s'y trompe. C'est dans l'article nommé, dans l'article Amour nommé socratique du dictionnaire philosophique. L'amour nommé socratique, c'est l'homosexualité. Alors voilà comment il procède. Il commence par concéder aux préjugés de l'époque. Il dit « Comment s'est-il pu faire qu'un vice destructeur du genre humain, s'il était général, qu'un attentat infâme contre la nature ?» Ah bon, là, le censeur est content. Et puis, il termine « Soit pourtant si naturel. » Alors là, voilà, ça met par terre tout ce qui a été dit avant. Finalement, l'homosexualité, eh ben, on peut considérer que c'est quelque chose de naturel. Voilà un peu les types de procédés employés par Voltaire.
Aux États-Unis, la liberté d'expression est sans limite. Donc, le racisme n'y est pas vraiment puni. Et il y a un groupe qui s'appelle la KKK qui publie des propos racistes. Donc, est-ce que Voltaire les laisserait publier ses propos ?
Alors, il faut faire attention que pour Voltaire, vous voyez, il est dans un climat de censure. Donc, pour lui, on doit pouvoir publier comme on l'entend, mais ensuite, on doit rendre des comptes, effectivement, si, comme on l'a dit au début, on tient des propos infâmes. Donc, alors, je ne sais pas comment il réagirait aujourd'hui, mais je pense, je peux redire ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, si effectivement des propos racistes sont proférés, pour Voltaire, je pense qu'effectivement il faut poursuivre et condamner, et à terme, d'ailleurs c'est ce qui peut se passer, y compris dans notre pays, à terme, interdire la publication en question. Là où les propos sont écrits et diffusés, on peut justement interrompre ces diffusions. Je pense qu'on peut dire ça sans se tromper.
Maintenant, intéressons-nous à la laïcité. Est-ce qu'on peut dire que Voltaire en est le père, du coup ?
Alors, évidemment, il n'en est pas le seul père, et il ne pouvait pas déterminer à notre époque, ou disons à l'époque de la loi même, à l'époque de la loi de 1905, il ne pouvait pas déterminer les modalités pratiques et le contexte politique qui était complètement différent. Mais je pense que si on prend l'intitulé de la loi et la formulation de l'article 1, on retrouve bien les notions fondamentales de cette loi. Puisque cette loi s'appelle la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État. Ça, c'est un leitmotiv de Voltaire, ça revient constamment. L'église et l'État doivent être rigoureusement séparés et en aucun cas la religion ne doit interférer dans les lois civiles, dans le gouvernement, je dirais, de l'État. Voilà, donc ça, c'est absolument certain. Maintenant, l'article 1 dit « La République assure la liberté de conscience ». Ah, ça, c'est une expression absolument voltairienne. Oui, la liberté de conscience, ça veut dire la liberté de penser et de croire ce qu'on veut, de croire ou ne pas croire. Et en conscience, ça veut dire dans son fort intérieur, effectivement, on a une entière liberté de croyance et il ne doit pas y avoir d'interférence de l'État d'ailleurs. La loi de 1905 protège aussi le citoyen contre une éventuelle intervention de l'État. Hein, c'est donc effectivement protecteur. Et l'article 1 donc, de cette loi poursuit, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions et dictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Le libre exercice des cultes, c'est exactement ce que défend Voltaire. Pour lui, chacun doit pouvoir exprimer sa religion absolument sans entrave, autre qu'évidemment le fanatisme, c'est-à-dire l'intolérance poussée jusqu'à l'exclusion et le rejet des autres croyances. Donc à partir du moment où on respecte les croyances des autres, on doit pouvoir manifester sa propre croyance sans problème.
Donc est-ce que la laïcité est un bon principe pour la liberté d'expression ?
Ah ben je crois que c'est même le principe fondamental. Hein, sans la laïcité, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que si on assiste dans la société à un affrontement des croyances, où chacun essaie de faire taire l'autre parce qu'il pense qu'il détient la vérité en matière théologique et en matière de croyances, alors là, effectivement, on va vers, je dirais, ce qui s'est passé autant jadis dans notre pays, c'est-à-dire la guerre de religion, et puis la censure et l'inquisition. Donc effectivement, la laïcité, le fait de laisser totalement la religion à l'écart de ce qui régit la vie, l'existence du citoyen, je pense que oui, c'est même un des fondements, je dirais, et un des soucis primordiaux de ceux qui ont établi cette loi.
Merci à Alain Sagère, du coup, d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est la fin de cette émission. Restez à l'écoute de Bac FM 106.1. Bonne journée à vous. Au revoir.
Merci à vous.